7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Penaï Traoré.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 7 milliards de voisins. L'actrice française Adèle Haenel a quitté en trombe la cérémonie des Césars en lançant « C'est la honte ». C'était vendredi dernier après l'annonce du César du meilleur réalisateur attribué à Roman Polanski, pourtant accusé de viol et d'agression sexuelle par une dizaine de femmes, dont certaines sont mineures. Une image qui a fait le tour des réseaux sociaux et des médias. C'est terminé, désormais on se lève et on se casse, le titre d'une tribune coup de poing signée par la romancière Virginie Despentes. Bien avant cela, des actrices et travailleuses du cinéma africain brisaient le tabou l'année dernière en marge de la 26e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, avec le hashtag « Même pas peur ». Les hashtags « MeToo »,« Balance ton porc »,« Je suis une victime »,« Vraie femme africaine » sont largement partagés sur les réseaux sociaux. Les prises de parole se multiplient pour dénoncer les violences faites aux femmes. À quelques jours du 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme, nous parlons aujourd'hui du féminisme dans le monde en 2020. Sénégal, Palestine, France, Suisse, comment raconter les nouvelles vagues féministes? Vous, les voisins et les voisines, on vous attend. Vous allez nous raconter la lutte féministe, comment elle se porte dans votre pays. Les discriminations à l'égard des femmes sont-elles toujours courantes? Et vous le savez bien déjà, le numéro de téléphone, c'est le 33 1 84 22 71 71. Nous aurons au téléphone la correspondante de RFI au Mexique, Alix Hardy. Elle nous parlera de la mobilisation du mouvement féministe dans ce pays d'Amérique du Nord. En fin d'émission, nous écouterons le témoignage d'une militante féministe iranienne, Chaparak Shazari Zadeh, au micro de Charlie Dupio. Des messages d'auditeurs que nous avons reçus sur les réseaux sociaux. André de Kinshasa, en RDC, chez nous, les mouvements féministes sont rares à cause de la pauvreté et du manque d'initiatives. Brice de Yaoundé, au Cameroun, il nous dit, le 8 mars, lors de la Journée internationale des droits des femmes, on voit des féministes défiler sur les plateaux télé. On a l'impression ce jour-là que la femme est valorisée et qu'elle peut réclamer ses droits. Mais le lendemain, fini le zèle, la fête est finie et tout redevient comme avant. Bertrand de Yaoundé, toujours au Cameroun, si le féminisme veut dire favoriser les femmes parce qu'elles sont des femmes, je suis contre. Mais si c'est lutter pour que les femmes ne soient plus marginalisées sur n'importe quel plan de la vie, je suis pour. Pour que cette lutte aboutisse, il faut surtout ne pas aller en affrontement contre l'homme, sinon ça va échouer. Le paradoxe en Afrique est que la femme veut plus de droits, mais refuse d'assumer plus de devoirs. Par exemple, salaire égal à celui de l'homme, mais pour payer les factures, elle regarde l'homme.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Nos deux invitées, elles réagissent déjà en rigolant au message de nos auditeurs. Pauline Delage, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Vous êtes sociologue à l'Université de Lausanne, cofondatrice du Labo Visage, violence fondée sur le genre, auteur de Féminisme dans le monde, 23 récits d'une révolution planétaire parue aux éditions Seuil. Édition textuelle ou Seuil?
Textuelle. Et c'est un livre que j'ai co-dirigé avec Fanny Gallo, qui est historienne, oui. Et donc qui rend compte de 23 contributions de militantes et d'universitaires sur les droits des femmes.
Et nous avons également avec nous Ndeye Fatou Kane. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, je suis très heureuse d'être ici.
Vous avez aussi participé à l'écriture de ce livre. Vous êtes sénégalaise, blogueuse et auteure de « Vous avez dit féministe » aux éditions L'Harmattan.
Oui, c'est le lieu de remercier Fanny et Pauline qui m'ont gentiment demandé de contribuer à ce livre. Donc j'ai écrit sous ma perspective sénégalaise.
Et vous avez aussi agi sur les réseaux sociaux en lançant le hashtag « Balance ton saï-saï, balance ton pervers en Wolof », c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Et avant de commencer, mesdames, vous avez suivi les Césars?
Eh ben, oui, évidemment, oui.
Alors, qu'est-ce que vous a marqué?
Ben, moi, je pense que surtout, effectivement, alors, je rejoins ce que dit Adèle Haenel, c'est une honte absolue, cette récompense. Et puis, ça montre aussi, je pense, le contraste réel entre des mobilisations féministes qui sont pleines de force, pleines d'élan, et qui sont très visibles à l'heure actuelle, et notamment des mobilisations féministes contre les violences sexuelles, mais pas uniquement, et à la fois des institutions, notamment l'Académie des Césars, qui sont censées être légitimes, qui sont dans ce cadre des institutions culturelles élitaires et qui font preuve d'un mépris absolu pour cet élan vers l'égalité qui est porté par les féministes.
Je partage totalement l'avis de Pauline, mais j'aimerais aussi parler de Aïssa Maïga, qui a livré une tribune très émouvante. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont critiqué
sur
la
diversité
la forme,
dans le cinéma français.
Sur la diversité, l'inclusion. Beaucoup de gens ont critiqué la forme, mais moi, pour moi, c'est le fond qui a le plus d'importance. Une tribune émouvante. Et surtout, elle a porté ses ovaires, comme on dit vernaculairement. Et j'ai trouvé ça très, très bien. Et aussi, la tribune de Virginie Despentes, qui était très acerbe, comme elle a l'habitude de l'écrire, on se lève et on se casse. Oui. Mais je voudrais juste déplorer un peu, en fait, si je peux me permettre. Autant Aïssa Maïga a parlé du manque d'inclusion dans le cinéma français, mais je voudrais aussi parler du manque d'inclusion dans le cinéma, dans le féminisme blanc hégémonique. Parce que quand on parle de féminisme, on a juste tendance à parler de nous toutes. Mais est-ce que nous toutes, nous sommes dedans? Même Virginie Despentes, dans sa tribune, elle a omis Aïssa Maïga, elle a juste parlé de Adèle Haenel. Oui. Donc, en termes d'inclusion, je voudrais qu'on nous considère toutes deux femmes. Sans distinction d'origine, de couleur.
C'était pas le même sujet.
Oui, mais pour moi, en fait, c'est du féminisme. Quelle que soit la tribune qu'on donne quand une femme se lève pour faire entendre sa voix, c'est du féminisme.
Et justement, dans cette tribune de feu de l'auteur des King Kong Theory, Virginie Despentes, parmi les phrases qui sonnent comme une claque, la différence ne se situe pas entre les hommes et les femmes, mais elle entre dominé et dominant, c'est terminé, on se lève, on se casse. Et maintenant, c'est comme ça.
Alors, j'espère que ça va être comme ça. En tout cas, la cérémonie a révélé la nécessité de continuer à se lever tout ensemble, effectivement, et à se casser collectivement. Ouais.
Je suis du même avis.
Ouais. Vous êtes du même avis. Ouais. On s'élève, on se casse.
Oui.
On ne veut plus nous entendre.
Ouais, c'est le cas.
Et où en sont aujourd'hui les mouvements féministes dans le monde?
Alors, je peux juste parler de ma perspective africaine et particulièrement sénégalaise, celle que je maîtrise le plus. Je suis tentée de dire qu'il y a du 109, une nouvelle impulsion de jeunes féministes qui se lèvent, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a eu la vague de dénonciations notamment sur les violences sexuelles. À la fin de l'année 2019, le président Macky Sall a enfin voté la loi de criminalisation sur le viol. Depuis 54 ans, nous attendions
en
ça.
En décembre, enfin, 1965,
c'est le travail de terrain de plusieurs associations, dont l'association des juristes sénégalaises, etc. Mais pour moi, en fait, je me réjouis, mais je suis quand même vigilante parce que sous l'euphorie collective, après, on va peut-être nous endormir et qu'il n'y aura pas vraiment de suite. Donc, j'attends de voir la suite. De vrais procès, de vraies dénonciations sur les auteurs de violences sexuelles et que les femmes, en fait, s'écartent un peu du féminisme institutionnel qui récupère tous leurs combats, aussi légitimes qu'ils puissent être. Donc moi, c'est là vraiment le combat sur lequel nous sommes attendus.
Tout à l'heure, vous avez parlé de Aïssa Maïga qui, par rapport à sa sortie sur la scène des Césars, et également, on a de l'autre côté Adèle Haenel. Peut-on parler d'un seul féminisme ou des féminismes?
Moi, je suis tentée de parler de pluralité. Même quand on me demande quel est le féminisme africain, je leur dis, mais de quel pays vous me parlez? Même au Sénégal, il y a plusieurs mouvances féministes, plusieurs vagues. Donc, j'ai envie de parler de pluralité parce que les femmes sont diverses. Donc, j'ai envie de parler de féminisme au pluriel.
Pauline Delage, au pluriel ou au singulier?
Au pluriel, évidemment, parce que effectivement, donc, ce dont on essaye de rendre compte dans le livre, c'est d'une quatrième vague des féminismes. Donc, effectivement, il y a déjà des féminismes au sens historique avec plusieurs phases dans cette histoire militante. Mais il y a aussi une pluralité de revendications, de mots d'ordre, de modes d'action qui sont aussi liés à des positions sociales, au fait d'avoir subi d'autres formes de discrimination et notamment le racisme, qui génèrent des revendications spécifiques. Et c'est une des perspectives qu'on a adoptées dans ce livre, c'est d'essayer de montrer justement cette pluralité à la fois au niveau international, donc une pluralité qui est liée au contexte national, au contexte politique, juridique, et puis aussi une pluralité qui est liée à l'expérience des militantes qui portent des revendications.
On pourrait dire que chaque pays a son féminisme selon le temps, selon l'actualité.
Chaque pays a ses féminismes, en tout cas.
Ses féminismes.
Oui. Et effectivement, il y a un féminisme, disons, institutionnel qui agit essentiellement auprès des institutions juridiques, politiques. Et puis, il y a aussi des militantes féministes qui sont davantage partie prenante des mouvements sociaux. Et ça aussi, c'est une perspective dont il faut rendre compte.
Ndeye Fatou Kane, le Sénégal fait partie des premiers pays de l'Afrique francophone où la lutte féministe a très vite été lancée par des femmes comme Marie-Angélique Savané avec le mouvement Yehoui Yehoui, dont vous faites référence à ce mouvement-là. Et également, bien avant elle, on connaît des noms comme Aline Sitoué Diatta, Mariama Ba. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces femmes?
Je suis toujours très très fière et flattée hein, quand on cite le Sénégal comme étant le pays à l'avant-garde des luttes féministes. C'est ce qui m'a même inspirée à écrire mon livre « Vous avez dit féministe » qui est paru il y a 2 ans. C'était à la faveur d'un séjour au Sénégal. Donc je m'interrogeais, je me disais, où sont ces militantes féministes-là? Pourquoi on ne les entend plus? Pourquoi chaque 8 mars, on les exhibe en quelque sorte, on fait leur portrait, mais après, elles sont devenues aphones? Et je m'interrogeais un peu sur la trajectoire que mon pays a connue, sur la religion qui était de plus en plus présente, sur les femmes qui étaient un peu à l'arrière-garde de ces combats. Et on a tendance à parler du féminisme en le situant aux années 80, mais moi j'ai envie de dire que le féminisme existait avant, même avant la colonisation, oui, avant l'introduction des religions, au XVIIe, XVIIIe siècle, avec le matriarcat, avec la filiation qui se passait par la mère. Moi j'ai envie de dire que ces femmes-là étaient des féministes. Vous avez parlé de Aline Sitoué, mais j'ai envie de citer Dateyala, ces reines-mères, ces matriarches, donc pour dire.
Mais on a l'impression que ces noms ne sont pas connus aujourd'hui par la jeune génération.
Ben, on a tendance à en parler maintenant, à leur rendre hommage, mais surtout le rejet qu'il y a du féminisme avec ma génération ou la génération plus jeune, c'est qu'on leur a dit que le féminisme était une tradition occidentale, que ça s'est venu avec la colonisation, mais je me dis que c'est peut-être une méconnaissance de notre histoire, donc c'est là le plus grand défi qui nous attend.
Et Pauline Delage, dans le sillage de mai 68, les mouvements féministes étaient plutôt axés sur le droit à la contraception, le droit à l'avortement, les revendications à l'égalité de tous les droits moraux, juridiques, économiques. Ce sont toujours les mêmes luttes aujourd'hui?
Alors ces luttes, elles existent encore, effectivement, en fonction notamment des contextes politiques et juridiques. L'Irlande, par exemple, a eu accès à la légalisation de l'avortement très récemment. Il y a toujours des mobilisations pour l'accès à la contraception et à l'avortement dans de bonnes conditions et notamment dans des conditions juridiques favorables. Mais au-delà de ces revendications, donc qui existent toujours, il y a toujours ce contraste que les militantes déplorent. C'est la différence entre le droit parfois, et le droit qui proclame l'égalité entre les femmes et les hommes, donc c'est notamment le cas en France, c'est le cas dans d'autres pays dont il est question dans le livre, et puis la réalité. Et parfois on a ce mythe de l'égalité déjà là, c'est-à-dire de l'idée selon laquelle, comme il y a des mesures juridiques, des lois qui sont censées favoriser les droits des femmes, et bien dans ce cadre, on n'a plus besoin de se mobiliser pour les droits des femmes. Et ce que constatent en fait ces militantes...
Pourtant c'est une lutte permanente.
C'est une lutte permanente, et encore une fois, les Césars ont bien montré que c'était une lutte permanente qui pouvait être...
Tout à l'heure, vous parliez de l'Irlande. En Russie, par exemple, les femmes luttent contre, entre autres, les violences conjugales, les violences domestiques qui ont été décriminalisées plutôt. Ces violences sont désormais passibles d'une simple amende, sauf pour les cas les plus graves ou pour les récidives. Qu'en pensez-vous, Ndeye Fatou Kane? C'est un recul?
Bah, carrément. Ça me choque toujours pour abonder un peu dans le même sens de Pauline. On nous sort toujours le discours, oui, mais vous avez tout maintenant. Pourquoi luttez-vous? Alors que la lutte, pour moi, c'est un combat de toute une vie. Aujourd'hui, on peut être à un stade, demain à un autre stade. C'est tant qu'on vit, pour moi, en fait, la lutte, elle se termine jamais. Et le féminisme, c'est une idéologie qui nous suit toute notre existence.
Nous restons, mesdames, dans le thème du jour, en musique avec les Amazones d'Afrique. Musuri vena no venke musuya
Ati nyingi gao tau dal yai Ati luma mana ande dal yai Jinge mana tuko atan yai Mama legi jinge mana kanda baba mai
Majuya sobo makati yako
Susurras a mis espaldas
de RFI, c'est 7 milliards de voisins. Et tout de suite, chers invités, le féminisme aujourd'hui ne peut pas se mener, la lutte ne peut pas se mener sans Internet. Alors, c'est... Avec tous ces hashtags qui ont été lancés depuis quelques années déjà. MeToo, balance ton porc.
C'est un des éléments effectivement qu'on essaye de mettre en avant, de souligner, c'est la force de diffusion qu'offrent les réseaux sociaux et qui permettent aussi de voir circuler des modes d'action, des slogans. Donc évidemment, c'est difficile d'imaginer aujourd'hui la lutte contre les violences sexistes et sexuelles sans MeToo, puisque ça a permis une vague de dénonciations d'ampleur au niveau international. Mais on voit aussi que parfois, ce sont des performances qui circulent. Donc on peut donner aussi l'exemple de la performance des Chiliennes Las Tesis, oui. Donc qui clamait « Le violeur, c'est toi ». Et cette performance, elle a circulé grâce aux réseaux sociaux et ça a créé aussi une unité internationale dans les revendications et les modes d'action.
Et peut-on parler d'une renaissance du féminisme avec Internet, Ndeye Fatou Kane ?
Moi, je suis un peu partagée sur l'utilisation des hashtags.
Pourquoi ?
C'est vrai que MeToo, balance ton porc ont été vraiment des points focaux qui ont permis la renaissance d'une parole féministe engagée 2.0. Mais notamment avec balance ton ça et ça, au Sénégal, il y a eu Boule Marissou, une campagne contre les attouchements dans les transports publics. Et récemment, j'ai vu une vraie femme africaine qui a pris naissance chez les jeunes
oui,
féministes
ivoiriennes. Il y a aussi Je suis une victime.
Je suis une victime qui dénonçait les victimes de violences sexuelles. Je trouve ça très bien. Mais en fait, moi, j'ai un peu peur qu'on s'installe dans une vague de sensationnel.
C'est un peu le buzz.
Oui, c'est ça. Parce que j'ai eu à lire la plupart des publications qui ont été faites sur Facebook et Twitter essentiellement. Mais après, ça devenait un peu parodique. On voyait les hommes qui se moquaient. Oui, mais après, vous avez été violée. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, parce que les jeunes filles parlaient de violences qui avaient eu 5 ans, 10 ans, alors qu'on sait la difficulté de parler de ces situations-là. Donc moi, je voudrais en fait que...
Que ces hashtags soient suivis d'actions.
Exactement. Parce qu'après, avec Internet, tout va très vite. Aujourd'hui, on va parler d'une telle chose. Bien que MeToo, ça continue à exister.
Oui.
On parlera d'un tel buzz. Demain, on passera à autre chose. Et j'ai un peu peur que ça nous installe dans une sorte de cycle de buzz où on va juste à la course effrénée du scoop.
Mais pourquoi justement ces hashtags ont du mal à prendre dans les pays africains?
Bah, c'est une chape
votre
de
balance, ton saï-saï n'a pas eu assez de succès. Également, je suis une victime, ma vraie femme africaine, ça va rester au stade de buzz. Pourquoi ça a du mal à prendre dans ces pays?
Alors, balance ton saï-saï n'a pas pris, mais j'ai vu après toute la vague de hashtags qui ont suivi, modestement, je crois que ça a inspiré d'autres jeunes femmes à prendre la parole. Donc, on va voir sur la durée ce que ça va donner, mais moi, je suis un peu dubitatif.
Tout de suite, on se tourne maintenant vers le Mexique où le mouvement féministe est particulièrement mobilisé en ce moment à cause d'un contexte de violence contre les femmes toujours plus dramatique. Selon les statistiques officielles, ce sont 10 femmes qui sont assassinées chaque jour dans ce pays. Le mois dernier, le sujet s'est imposé dans le débat public à cause de 2 féminicides particulièrement barbares qui ont provoqué la colère des Mexicains. Et nous avons en ligne depuis le Mexique, Alix Hardy, la correspondante de RFI. Bonjour Alix.
Bonjour Penaï.
Rappelez-nous, que s'est-il passé ces dernières semaines au Mexique?
Alors, en effet, vous disiez, les violences contre les femmes, c'est un sujet plus que jamais d'actualité au Mexique, parce que plus de 3600 femmes ont été assassinées l'an dernier. C'est un chiffre qui est monstrueux et surtout qui est en hausse constante ces dernières années. Et c'est une réalité qui est devenue très visible le mois dernier, parce que 2 cas de féminicide atroce, vous le disiez, se sont succédés en l'espace de quelques jours. D'abord, il y a eu le cas d'Ingrid Escamilla, une jeune fille de 25 ans, assassinée par son compagnon, qui l'a ensuite dépecée. Et pour ajouter à l'horreur, son corps mutilé s'est ensuite retrouvé en une des tabloïdes. Alors, le cumul de ce crime atroce et de l'atteinte à la dignité des victimes par les enquêteurs et les médias a déclenché la colère des Mexicaines. Sauf que quelques jours plus tard, le Mexique s'est réveillé avec une autre nouvelle barbare. Le corps d'une petite fille de 7 ans avait été retrouvé dans un sac poubelle avec des signes de violence sexuelle. Et plus on s'intéresse à l'affaire, plus on se rend compte que les autorités sont restées passives durant les 4 jours où la fille était portée disparue. La famille est persuadée que la petite Fatima aurait pu être retrouvée à temps si seulement les autorités avaient réagi immédiatement.
Alix, ces 2 affaires dramatiques ont relancé les manifestations féministes dans le pays?
Oui, tout à fait. Il y a eu une succession de mobilisations menées dans tout le pays par des collectifs féministes, des rassemblements sous les fenêtres de la présidence, des blocages de stations de métro, de péages dans la capitale. Même le plus grand poste de frontière entre le Mexique et les États-Unis, donc à Tijuana, a été partiellement bloqué par des manifestantes en colère. Alors, au-delà du caractère atroce de ces crimes, qui est vraiment critiquée au fond, et l'attitude des autorités qui, dans les deux cas, soulève vraiment beaucoup de questions. De manière générale, le système de police et de justice, il est dysfonctionnel au Mexique, et en conséquence, l'impunité règne. D'ailleurs, un des slogans les plus répandus dans les manifestations féministes au Mexique, c'est « Ce n'est pas la police qui me protège, ce sont mes amis ». On l'a d'ailleurs beaucoup entendu en août dernier, quand plusieurs policiers ont été accusés d'agressions sexuelles sur des jeunes femmes.
Et face à tout cela, on voit émerger une nouvelle vague de féminisme dans le pays, plus jeune et peut-être plus combative.
Oui, c'est ça. Vraiment, il y a quelque chose qui monte. Nous, on le sent dans ces manifestations récentes. Alors, les féministes au Mexique, évidemment, il y en a toujours eu. Hein. Ce sont elles qui ont permis, il y a 15, 20 ans, la rédaction de lois très bien ficelées contre les violences faites aux femmes. Mais comme dit souvent Andrea Medina, qui est une avocate féministe reconnue, ici, l'État simule. Et donc, ces lois, si bien écrites, ne sont pas appliquées. Et face à cette inaction de l'État, on observe une nouvelle génération de femmes, de filles, parfois très jeunes, qui reprennent ce flambeau de cette lutte pour leurs droits à vivre sans violence. En fait, c'est des femmes qui ont grandi en ayant parfaitement conscience de leurs droits, mais qui observent une vraie dissonance entre cette théorie et la réalité. Et donc, elles ont une autre façon d'exiger une réponse du gouvernement. Ces derniers mois, durant les manifestations, il y a eu parfois des arrêts de bus vandalisés, souvent des tags sur les monuments. L'idée, c'est de provoquer un sursaut de la part des pouvoirs publics qui, malgré le chiffre de 10 femmes assassinées par jour que vous donniez tout à l'heure, ne semble pas avoir pris conscience de l'ampleur du problème. Le président Andrés Manuel López Obrador lui-même, il a été plusieurs fois interpellé sur le sujet et il n'a énoncé que des banalités, par exemple. Il faut respecter les femmes et les hommes et tous les êtres vivants. Et ça, ça illustre bien le chemin qu'il reste à parcourir.
Merci Alix Hardy. Et on rappelle que les mobilisations se poursuivent donc au Mexique le 8 mars, bien sûr, avec une immense marche qui devrait, vu le contexte, être plus suivie que jamais, mais aussi le lundi 9 mars, jour où les Mexicaines ont déclaré une grève des femmes, un mouvement qui a pris une ampleur nationale et qui est notamment soutenu par le Parlement fédéral ainsi que de nombreuses entreprises dans le pays. Chers invités, Pauline Delage, que pensez-vous de ces manifestations, de ces femmes, notamment de ce cas mexicain, des crimes barbares?
Oui, mais c'est des manifestations donc autour de la question des violences et des féminicides en particulier qu'on voit jaillir un peu dans différents endroits du monde. Il y a aussi justement cette revendication de la grève des femmes et de la grève féministe qui est portée aussi dans différents pays du monde. Elle fait suite notamment à l'appel des femmes argentines en 2017 qui appelle à une grève féministe tous les 8 mars dans différents pays du monde. Et on a vu donc naître une grève féministe, c'est-à-dire une grève du travail non seulement salarié, mais aussi du travail domestique, du travail du soin des autres, qui est un travail qui incombe encore majoritairement aux femmes.
Dans beaucoup de pays, il y a des manifestations de femmes, hein, notamment en Inde, au Sénégal, il y avait eu des manifestations l'année dernière, et c'était quand deux jeunes filles ont été violées et tuées, Ndeye Fatou Kane.
Oui, particulièrement la jeune Binta Camara qui avait vraiment ému tout le Sénégal et il y avait eu des sit-ins même dans la France sénégalaise à Paris. Tout le monde s'était levé. Et pour réagir un peu sur le reportage, je pense qu'en Amérique latine, les femmes ont une tradition de lutte et de revendication. Mmh. Et même de partout dans le monde, je trouve ça vraiment très vivifiant de voir que le 8 mars n'est pas la journée de la femme, mais une journée où les femmes se lèvent pour revendiquer leurs droits. Et je veux juste pour dire qu'en Afrique, particulièrement au Sénégal, oui, pour leur dire que le 8 mars n'est pas une fête, il faut vraiment qu'elles prennent plus
en
compte conscience.
En Afrique, comme une fête, hein, oui, les femmes elles font des uniformes,
des
pailles, elles vont danser,
des cadeaux,
elles vont boire
et les entreprises
dans les
font des réductions pour les femmes pour dire c'est votre journée, vous faites chouchouter. Alors oui, que non, on doit vraiment lutter parce que le 9 mars,
folklore,
la
ça
vie reprend son cours. On doit, oui, sortir du folklore, des réjouissances pour faire prendre conscience aux femmes que le 8 mars est une journée où elles doivent vraiment revendiquer leurs droits.
Pauline Delage, au-delà de ce folklore, ça doit être une journée où les femmes doivent manifester, marcher.
Mais effectivement, enfin, je rejoins ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est une journée de mobilisation, donc c'est pas une journée effectivement où on pourrait offrir une rose à une femme et
c'est pas la Saint-Valentin, quoi.
C'est pas la Saint-Valentin, c'est une journée pour les luttes et une journée pour revendiquer des droits et pour rappeler effectivement que l'égalité n'est toujours pas acquise et que c'est un mouvement qui doit se perpétuer et perdurer. Et voilà, je pense que effectivement c'est une journée de mobilisation. Une journée, c'est pour ça que le mode d'action autour de la grève est particulièrement important parce que ça permet de montrer que quand les femmes s'arrêtent, eh bien, il y a plus grand chose qui fonctionne en fait.
Est-ce que les manifestations, les marches portent leurs fruits?
Effectivement, oui, au sens où depuis déjà longtemps, le 8 mars est toujours une journée de mobilisation, et ça a permis de fait de structurer des mouvements féministes et de conquérir certains droits et de conquérir le droit notamment d'être visible dans l'espace public en tant que féministe.
Tout de suite, nous donnons la parole à certains auditeurs qui nous écoutent.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Nous commençons par Lucie de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Lucie, bienvenue.
Bonjour et merci de me recevoir sur les antennes de RFI.
Vous êtes présidente de l'association Women Empowerment in Africa qui œuvre pour la promotion des droits des filles.
Tout à fait.
Et qu'est-ce que vous faites comme activité dans votre lutte féministe?
Alors, d'entrée de jeu, permettez-moi de présenter un peu l'association.
Rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps.
D'accord. Women Empowerment in Africa est une association à but non lucratif qui œuvre pour la promotion de la femme et de la jeune fille, principalement à travers trois axes, l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, l'éducation et la lutte contre les violences faites aux femmes et filles. Pour y arriver, nous avons dans le cadre de l'éducation une bourse scolaire octroyée au JFD, aux jeunes filles démunies chaque année, oui, pour les aider aussi à aller à l'école. Nous organisons régulièrement des séminaires à l'auto-emploi pour former les filles au métier afin qu'elles puissent elles-mêmes être indépendantes financièrement. Et régulièrement aussi, nous organisons des plaidoyers, des actions de sensibilisation et des concours primés pour favoriser l'oralité de la jeune fille en Afrique, mais aussi pour pouvoir défendre les droits des femmes et des jeunes filles.
Et quel est aujourd'hui le problème du féminisme au Cameroun?
Le problème que nous rencontrons, c'est que la promotion et la protection des droits des femmes se heurtent aux barrières et aux obstacles socioculturels. Et les cultures sont déjà là, elles sont enracinées dans certaines pratiques pour pouvoir faire comprendre aux populations locales qu'on peut voir autrement la femme, on peut la considérer autrement. Par exemple, dans les secteurs comme les droits fonciers, c'est un peu difficile. Donc, en tant qu'association, nous misons sur le plaidoyer et nous essayons de faire comprendre le bien fondé qu'il y aurait à pouvoir permettre aux femmes de jouir de leurs droits, notamment en ce qui concerne leur contribution au développement du Cameroun, de
l'Afrique. Le féminisme se heurte donc à un problème de culture.
Tout à fait. Également dans la compréhension des uns et des autres qui pensent que le féminisme est purement occidental. Maintenant, on parlerait d'un nouveau courant d'un féminisme africain qui prendrait compte la dimension endogène parce que une approche anthropologique parlant du féminisme, on devrait tenir compte des cultures présentes pour pouvoir mieux mener le combat.
Ndeye Fatoukan, vous avez quelque chose à dire par rapport à l'intervention de notre auditrice Lucie?
Oui, bah je vois des convergences avec ce qui se passe au Sénégal et je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'elle a dit pour dire que aujourd'hui on se heurte, bien que paradoxalement les libertés des femmes connaissent une belle avancée, mais on se heurte toujours à quelques frictions.
Oui.
Qui disent que le féminisme, on veut plus en entendre parler.
C'est occidental.
Les femmes s'occidentalisent, elles deviennent des toubabs, alors que non, le féminisme a toujours existé. Donc d'un coup, on avance de 1000 pas et puis on recoule de 500, donc c'est un peu contradictoire.
Merci beaucoup, Lucie.
Je vous en prie, merci. C'est moi qui vous remercie.
Et nous avons Diderot également du Cameroun, il est de Yaoundé. Bonjour Diderot.
Bonjour à vos invités.
Vous êtes le premier homme qu'on entend aujourd'hui dans cette émission sur le féminisme. Merci de nous appeler.
Ah, c'est moi qui vous remercie.
Alors, on vous écoute.
D'accord. Bon, nous sommes en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Encore au féminisme embryonnaire, je le dirais ainsi parce que le féminisme chez nous aujourd'hui consiste d'abord à éradiquer certaines pratiques culturelles qui dévalorisent la femme.
Lesquelles par exemple?
Il s'agit de la polygamie, l'excision, l'image de la femme mère, la femme qui n'a pas le droit à l'éducation, etc. Il y en a beaucoup. Donc du coup, les féministes aujourd'hui ont un défi, c'est d'abord faire comprendre aux gens que la femme doit sortir de ce canon traditionnel et aller vers la découverte d'autres espaces, certains espaces qui la valorisent et qui mettent en valeur sa liberté.
Mais comment la faire sortir de cet espace traditionnel dans un pays comme le Cameroun?
Il faut sensibiliser. Oui. Il faut sensibiliser parce que le problème, l'un des problèmes, c'est que beaucoup ne connaissent pas leurs droits. Je parle des femmes. La plupart des femmes ne connaissent pas leurs droits. Il faut sensibiliser. Oui. Il faut aussi aller dans l'arrière-pays et parler aux parents. Parce que généralement, les gardiens de la tradition sont les parents, les ancêtres, les vieux, etc., qui, au nom d'une certaine tradition qu'il faut transmettre de génération en génération, maintiennent la femme dans ces états-là. Donc, il faut que les gens comprennent. Il faut aller vers le Camerounais lambda et lui expliquer qu'en fait, la femme, c'est quelqu'un comme lui et moi, et qu'elle a droit à un certain nombre de choses pour sa liberté.
Ndeye Fatoukan, Pauline Delage, il parle là de problèmes, des pratiques traditionnelles, culturelles, qui font que la femme n'arrive pas à s'en sortir dans certains pays, notamment les pays africains.
Je crois que ça montre aussi l'importance de penser donc pas différentes étapes dans le féminisme, mais plutôt des féminismes qui répondent à des besoins spécifiques en fonction justement des contextes locaux. Dans le livre, on parle aussi du féminisme, enfin des mouvements des femmes en Syrie, donc dans une période de guerre.
Alors effectivement, comment dans une zone en conflit, on peut mener un combat de féministes?
Voilà. Et donc là, il s'agit pas du tout, de lutter contre des pratiques comme la polygamie ou les mutilation, etc., mais vraiment de répondre aux besoins concrets de la population qui se trouve dans des situations de famine absolument horribles, des situations de guerre, des situations où il n'y a pas de lieu sûr. Donc tous ces féminismes-là, en fait, ils sont à un moment donné orientés vers la promotion des droits des femmes en fonction de leurs besoins spécifiques. Et je pense que c'est important de le regarder comme ça.
Diderot, vous avez un dernier message à ajouter rapidement?
Rapidement dire que en fait les femmes doivent aussi comprendre que elles ont la 80% de la plus grande responsabilité, c'est elles doivent elles-mêmes chercher à changer leurs solutions, parce que nous ici on est éduqués d'une certaine façon de telle sorte que si elles comptaient sur nous les hommes pour changer leurs solutions, ce serait un peu très difficile.
Mais les hommes peuvent contribuer quand même.
On peut contribuer.
Par exemple, vous nous avez appelé aujourd'hui. Merci Diderot pour ce coup de fil depuis Yaoundé. Et tout à l'heure, il a soulevé un point. Les femmes des zones rurales, parfois, elles ne connaissent pas leurs droits, elles ne se sentent pas concernées. Est-ce que le féminisme, c'est pas une histoire de femmes de la classe moyenne? Ma tante qui se trouve au fin fond du village ou celle qui fait son petit commerce au bord de la route, comment lui parler de féminisme?
Alors moi, je dirais que c'est une problématique de classe moyenne, voire bourgeoise. Parce que le problème qu'il y a eu, surtout dans le féminisme sénégalais, pour dire qu'il n'y a pas eu de... passage de relais, c'est que la critique que l'on faisait aux féministes de la première heure, si je puis m'exprimer ainsi, c'est qu'elles étaient en bourgeoisie, en fait. Elles disaient tout le temps que c'était les premières à aller à l'université, les premières à faire une thèse. Donc, elles ont un peu personnifié cette lutte-là pour la lier à leur parcours personnel. Et c'est là, il y a eu une distanciation. Parce que moi, je me dis que ma grand-mère, qui est au fin fond du Fouta, qui a d'autres préoccupations, elle veut survivre, faire vivre sa famille. Donc, elle a d'autres préoccupations. Oui. Quand on viendra lui parler du féminisme, rien que le mot ne lui évoquera rien. Et moi, je me dis que ces femmes-là qui font vivre des familles entières avec leur commerce, je me dis qu'elles sont féministes à leur façon. Oui. Donc la sensibilisation pourra se faire. Et il a évoqué un point aussi qui m'a interpellée pour dire que oui, mais les femmes doivent prendre leurs droits, mais les hommes doivent être des alliés. Oui. Parce que je crois que les plus réfractaires au changement, ce sont les hommes.
Parce qu'il semblait dire, débrouillez-vous, ne comptez pas sur nous.
Que c'est une lutte qui nous concerne tous. Donc il ne faut pas qu'il y ait une différence au niveau des genres.
Et nous avons une autre auditrice en ligne, Mina de Tananarive, c'est à Madagascar. Bonjour Mina.
Bonjour.
Comment se porte le féminisme à Madagascar?
Chez nous, on est encore très loin de l'égalité des genres déjà. Le féminisme, on en parle très récemment, suite à un fait divers qui a secoué toute la ville.
Oui.
C'était une très jeune fille qui était morte en couche. Des maltraitances conjugales soi-disant. Donc tout le monde a entendu parler de ce soir parce que ça a fait un buzz sur Facebook. Donc après ça, les langues se sont déliées, chacun a parlé. Donc là, on s'est rendu compte qu'on est encore très très loin de l'égalité.
Mais pourquoi exactement c'est ce fait divers qui a fait bondir les Malgaches?
Parce qu'il y a eu plusieurs versions qui étaient sorties. Au départ, on a dit que elle était morte sous les coups de son mari, enfin du père de son enfant. Après, on a dit non, c'était pas ça, c'était c'était le personnel soignant qui n'était pas assez réactif. Après, on a dit non, c'était les parents qui n'étaient pas assez attentifs. Donc, il y a eu beaucoup de versions de fait qu'elle était morte après avoir mis au monde son enfant. Donc, tout le monde y a mis son grain de sel, comme quoi, ouais, mais elle était déjà très malheureuse et tout ça. C'est là que les gens qui étaient un peu préoccupés par ce sujet se sont manifestés en disant « Oui, mais c'est parce que les femmes, elles se laissent trop faire. Maintenant, les femmes doivent se rendre compte de leurs droits, doivent s'affirmer à la fois dans les ménages et dans la société. »
Mais tout à l'heure, vous étiez en train de nous dire, quand on n'avait pas encore commencé l'émission, que quand une fille est indépendante, elle est tout de suite taxée de traînée.
Oui, je ne sais encore pas parce que c'est très difficile pour les gens chez nous d'accepter le fait qu'une fille puisse réussir d'elle-même, toute seule, puisse être indépendante et tout ça. Les gens pensent souvent que si une femme réussit, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière.
Oui.
Soit c'est un homme qui l'a aidée, soit
elle n'est pas capable d'être indépendante financièrement toute seule.
Voilà. Oui, et quand une femme devient un peu, disons, puissante, il y a toujours, c'est toujours très mal vu en disant ouais, sûrement celle-là, elle a pris elle a pris l'argent de son mari,
oui.
Quelqu'un lui a donné son argent, voilà. Comme si c'était impossible qu'une fille puisse se débrouiller toute seule et être quelqu'un d'elle-même. Mmh.
Merci beaucoup, Mina, pour ce témoignage.
Merci, bonne
émission. Pauline Delage, là, c'est encore un autre stade. Il y a encore du travail à faire, Madagascar.
Mais partout, à vrai dire. C'est-à-dire qu'on voit, et encore une fois, on voit qu'il y a énormément de mobilisation autour justement des violences sexistes, des violences sexuelles, et qui soulignent en fait le poids du contrôle du corps des femmes et à quel point ça structure la vie de nombreuses femmes dans le monde, de toutes les femmes dans le monde probablement, de toutes les personnes qui subissent du sexisme dans le monde. Et effectivement, les réactions qu'évoquait Madame au téléphone sont en fait très récurrentes et on les retrouve dans plein de contextes différents. Donc il me semble que c'est pas une problématique spécifique à Madagascar, au contraire c'est une problématique qu'on retrouve
dans
à peu près
pays.
Partout, voilà, et qui structure des mobilisations. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est véritablement une revendication qui est omniprésente dans les mobilisations féministes à l'heure actuelle.
Et Naïf Atoutan, là encore il y a un fait divers qui revient tout le temps. On part d'un fait divers pour que les gens se lèvent.
Ouais, son intervention nous montre encore la nécessité de porter des revendications féministes. Et après, peut-être que nous ne sommes pas toutes et tous au même stade de sursaut, mais c'est bien qu'elle soit partie d'un fait divers pour faire comprendre aux femmes qu'elles doivent se lever, porter leur combat. Et le corps est politique, donc du moment qu'elles prendront le contrôle de leur corps, pour moi, peut-être la lutte va un peu avancer.
Puisque nous parlons de féminisme, mesdames, je voudrais vous faire découvrir le parcours d'une militante iranienne, Shaparak Shazari Zadeh.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Cette Iranienne de 44 ans, femme iranienne qui a découvert le militantisme et les injustices qu'elle subissait dans la société, emprisonnée et forcée à l'exil aujourd'hui, elle vit à Toronto. Elle publie avec la journaliste Rima El Khoury le livre « La liberté n'est pas un crime » chez Plon. Elle était enfant quand il y a eu la révolution islamique en 1979 qui a rendu obligatoire le port du voile pour les femmes et restreint leurs droits. Charlie Dupiot l'a rencontré.
Le premier jour où je suis allée à l'école, à l'âge de 6 ans, ma mère m'a mis un voile sur la tête. C'est là que j'ai commencé à être forcée de porter le voile. Quand j'ai eu 10 ans, toujours à l'école, on m'a dit qu'il fallait porter un nouveau foulard. Un foulard qui avait juste un trou pour le visage. Il recouvrait ma tête, mes cheveux, mon cou, il allait jusqu'à la poitrine. Chaque année, ils imposaient de nouvelles règles pour les femmes.
Vous aviez 19 ans quand vous avez été arrêtée pour la première fois dans un aéroport.
Ma mère partait en voyage à l'étranger, aux États-Unis. On l'avait accompagnée à l'aéroport. Mon père était dans la queue avec elle, en train de l'aider. Je les regardais de loin et une femme est arrivée. Il se trouve que mon manteau, cette veste qu'on doit porter jusqu'au genou, mon manteau n'avait pas de bouton. Il n'était donc pas fermé. C'est pour ça que cette femme est venue m'arrêter.
This woman like arrested me and they told me we know you, you're coming here like to like hunt some men.
Elle m'a dit, on te connaît toi, on sait que tu es venue chasser des hommes à l'aéroport. Tu es une prostituée. Il me menaçait de contacter mon université. À cette époque, c'était une grande punition. Toutes les filles avaient peur qu'on les exclue de leur université. Et cela arrivait souvent. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. J'étais alors étudiante en informatique. C'était vraiment un moment difficile, c'était effrayant. Et j'étais très en colère aussi. Cette femme travaillait avec d'autres policières qui arrêtent les femmes quand leur tenue vestimentaire n'est pas jugée convenable. Elle ne faisait pas à proprement parler partie de la police des mœurs, comme on l'appelle aujourd'hui, mais c'était un organe similaire qui portait un autre nom. Ils m'ont emmenée de force à la station de police située à l'intérieur de l'aéroport. Les murs étaient vitrés et je pouvais voir mon père qui me cherchait. Quand il est arrivé, les policiers étaient en train de me faire sortir pour m'emmener ailleurs. J'étais menottée. Il y avait des gens autour de nous.
And there were people around and they were taking me with handcuffs. I was very humiliated and
je me sentais humiliée parce que les passants ne pouvaient pas savoir pourquoi j'étais arrêtée. Ils devaient se dire que j'étais une criminelle, que j'avais fait quelque chose de mal. Comme mon père était là, j'ai fini par être relâchée à l'aéroport. Mais ce n'était pas fini. Après, en fait, chaque jour, tu as peur. Tu vis avec la peur d'être arrêtée à cause de ton apparence. Je pouvais être arrêtée à cause de la couleur de mon manteau, à cause de la couleur de mon voile. Dans ma tête, à cet âge-là, je n'étais pas en train de protester, je voulais juste être moi-même, je voulais mener ma vie comme je l'entendais, c'était tout. Et beaucoup de femmes s'habillaient comme moi, d'ailleurs.
Comment vous vous engagez dans les mouvements contre le port du hijab obligatoire?
On était en mai 2017 quand la campagne White Wednesday, la campagne des mercredis blancs, a commencé. La première vidéo de cette campagne a été diffusée. Elle appelait les femmes et les hommes à rejoindre ce mouvement et à se filmer sans voile pour protester contre l'obligation de le porter. Je me suis dit, ok, c'est parti, je vais participer.
Vous avez ça sur votre téléphone? You have this on your phone?
Yeah. Oui, ça c'est la première vidéo que j'ai faite.
Alors là, c'est vous qu'on voit avec des lunettes de soleil, les cheveux dehors. Vous avez un voile blanc autour des épaules. Sur cette vidéo, on vous voit en train de vous filmer en selfie, de parler face à la caméra et de dire « Je fais cette vidéo pour dire que je suis contre le port obligatoire du voile. J'aimerais dire à ceux qui veulent me forcer à rentrer dans leur paradis que je suis un être humain, je suis une femme, je suis une adulte. » Vous l'avez fait tous les mercredis?
Every Wednesday, yeah.
Tous les mercredis, oui. La plupart de mes vidéos, je les ai tournées dans le même parc, près de chez moi. Mazi en publiait certaines semaines sur son compte, mais elle ne pouvait pas toutes les diffuser.
Mazi Alinejad, qui est une activiste iranienne exilée à New York, aux États-Unis, journaliste.
Yeah. Being unwell in the streets,
oui, être sans son voile dans la rue, c'est une forme de désobéissance civile. Chaque semaine, nous nous filmions nous-mêmes et à chaque fois, on encourageait d'autres à nous suivre. Et puis, il y a eu le mouvement Girls of Revolution Street. Cela nous a permis d'être encore plus visibles auprès du gouvernement iranien, de le mettre face à notre protestation.
Girls of Revolution Street, les filles de la rue de la Révolution, donc qui se montraient sans voile avec le voile blanc au bout d'un bâton. Combien étiez-vous à peu près?
Nous étions nombreux. Nous savons qu'un jour, ils ont arrêté 30 hommes et femmes. Je ne connais pas les chiffres avec certitude, mais ils ont dû arrêter des centaines de personnes en tout à travers le pays. On protestait contre le port obligatoire du voile, mais aussi, selon moi, contre l'inégalité entre les hommes et les femmes. On montrait, nous, les femmes iraniennes, qu'on voulait les mêmes droits que les hommes, jusqu'au jour où j'ai été arrêtée, le 21 février 2018. C'est arrivé près de ma maison, dans le nord de Téhéran. Une voiture de police est passée près de moi et ils m'ont arrêtée alors que je commençais à protester. J'étais en train d'accrocher mon voile blanc à un bâton. Ils m'ont demandé ce que je faisais. Je leur ai répondu, on est mercredi, je proteste contre le voile obligatoire.
Combien de temps vous êtes restée en prison et comment ça s'est passé?
Mon premier séjour en prison a duré une semaine. J'ai ensuite été libérée sous caution. Quand je suis sortie, j'ai commencé à raconter haut et fort les mauvais traitements que j'avais reçus en prison, les interrogatoires, les violences que j'avais subies, et ça les a énervés. Après 3 semaines, ils m'ont à nouveau arrêtée, puis ils ont dû encore me relâcher. Ils n'avaient rien sur moi.
But they had to let me go because they didn't have anything on me. They sent me to jail.
Un peu plus tard, ils m'ont encore emprisonné pendant 9 jours cette fois. Et mon avocate, Nasrin Soutoudeh, a convaincu les juges de me libérer et de me laisser libre jusqu'à mon procès qui devait se tenir quelques semaines plus tard.
A few weeks,
au printemps 2018.
Yeah.
Oui, mais après cette troisième arrestation, j'ai réalisé qu'ils n'allaient jamais me laisser tranquille, qu'ils allaient sûrement s'en prendre à mon fils, à mon mari. Donc j'ai décidé de quitter le pays, de quitter l'Iran.
Avant votre procès.
Avant mon procès, oui. Jamais je n'aurais un jour imaginé que je mènerais cette vie. Mais aujourd'hui, cela me tuerait si je devais rester silencieuse.
Témoignage recueilli par Charlie Dupio Ndaye Fatoukan, le témoignage de cette militante iranienne qui s'est levée contre le port du voile dans son pays. C'est un autre type de féminisme.
Je trouve sa trajectoire de vie très courageuse et très émouvante, et ce qu'elle elle a dit à un moment donné, qu'elle ne peut être silencieuse. Et moi, je trouve que c'est révélateur en fait de toute sa lutte. Et on a beau se dire que maintenant la liberté est acquise, que les féministes ont porté de grandes revendications, mais dans certaines zones géographiques, on se rend compte que rien que le fait d'être, de marcher libre, la tête découverte, c'est un acte de grande bravoure, et pour nous rendre compte qu'encore la pluralité des féministes, c'est une réalité.
Pauline Delage, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce témoignage ?
Oui, bien sûr, c'est un parcours extrêmement touchant qui montre la nécessité aussi de se mobiliser pour la liberté et contre le contrôle du corps des femmes. Un contrôle donc qui s'exerce en Iran par l'obligation à porter le foulard. Mais comme là, je m'exprime depuis la France, j'aimerais aussi rappeler que ce contrôle, il s'exprime différemment en fonction des contextes. Oui. Et par exemple, en France, il n'y a pas d'obligation à porter le hijab. Mais par contre, les femmes musulmanes qui portent le hijab sont l'objet d'un fort contrôle aussi et d'une forte stigmatisation et discrimination. Donc encore une fois, ça montre aussi toute la nécessité de penser les droits des femmes dans leur pluralité en fonction des contextes et de promouvoir une forme d'internationalisme féministe qui permet de penser à la fois la lutte contre le sexisme, contre toutes les formes de sexisme, mais aussi contre d'autres formes de discrimination que subissent les femmes, et notamment le racisme, l'islamophobie en France, mais aussi les inégalités socio-économiques.
Merci à toutes les deux d'être passées nous voir pour cette émission sur le féminisme. Pauline Delage, sociologue à l'Université de Lausanne, cofondatrice du labo Visage, violence fondée sur le genre, et auteure de Féminisme dans le monde, 23 récits d'une révolution planétaire aux éditions textuelles. Ndaye Fatoukan, vous avez contribué dans ce livre également, ce livre de recherche. Vous avez écrit la partie sénégalaise. Vous êtes blogueuse et auteure de Vous avez dit féministe aux éditions L'Armaton. Merci d'être passée nous voir à toutes les deux.
Merci beaucoup.
Un dernier mot.
Merci infiniment. Merci.
Et demain, la paternité à la Scandinave, un modèle exemplaire. Nous parlerons du congé paternité. Tristan Champion, auteur de La Barbe et le Biberon aux éditions Marabout, et Vibeke Knop Rachlin, journaliste norvégienne. Merci à toute l'équipe, merci à tous ceux qui ont fabriqué cette émission. Sigrid Azeroual, Victor Hull, Raphaël Azizi, Cécile Lavelot, Alix L'Hospital.